La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous et bienvenue ce matin dans ce temple de l'Oratoire du Louvre. Vous êtes tous ici ensemble, mais d'autres nous regardent ailleurs et je les salue aussi. Par le biais d'Internet, nous sommes ensemble dans la même communion fraternelle. Bienvenue les enfants pour cette matinée d'éducation biblique. Alors vous voyez, il y a encore des petits soucis avec la pandémie qui nous empêche d'aller pique-niquer, d'aller jouer au parc ensemble, etc. Mais tout ça va revenir très vite, j'en suis sûre. Et aujourd'hui, nous allons vivre un moment d'éducation biblique ensemble. En tout cas, vous allez aller avec vos monitrices, vos moniteurs et Agnès. Et vous irez donc vivre ce temps autour de la question des paraboles. Vous allez apprendre ce que c'est qu'une parabole et peut-être même être capable bientôt d'en écrire vous-même. Bienvenue à la famille de la petite fille qui va être baptisée ce matin. Je dis petite fille, mais peut-être que ça la vexe et qu'elle se sent un peu plus grande que ça. Mais en tout cas, moi je te dis petite fille parce que pour moi c'est affectueux. Voilà. Et je souhaite que tout le monde soit ensemble dans ce temps que tu vas vivre avec ce moment important que nous allons vivre ensemble qui est donc le baptême de cette jeune fille qui l'a demandé car elle a l'âge de savoir ce qu'elle est en train de demander aujourd'hui. Et nous en sommes très heureux. Et puis c'est aussi pour nous aujourd'hui dans ce lieu d'église un jour anniversaire, puisque le 12 février 1943, ici même le pasteur Vergara lançait un appel à sa communauté rassemblée au culte dominical. Un appel à faire de la prière une force invincible de résistance contre la haine, la mort et l'antisémitisme. Sa prière fut entendue, puisque 63 enfants menacés de déportation dans les camps de la mort furent dans la semaine qui suivit sauvés par le courage et la volonté d'une trentaine de personnes qui se levèrent en ce dimanche matin pour ensemble avoir le courage de résister à la haine. C'était principalement des femmes protestantes, mais aussi des femmes juives qui les rejoignirent. Et elles organisèrent avec la Clairière, qui est encore aujourd'hui un centre d'action sociale dans le quartier des Halles, et ça a été créé par l'Oratoire du Louvre, un réseau de mise à l'abri des enfants juifs. Un nouveau réseau de résistance était alors né, notamment avec Mademoiselle Guillemot et Madame Spack. Et nous voulons exprimer notre reconnaissance pour ces personnes courageuses qui doivent nous inspirer toujours. Que cette mémoire nous donne le courage de toujours défendre l'humanisme contre la haine de l'autre. Je vous invite à prier. Éternel, toi qui nous réunis ce matin, donne à ce culte la saveur de la foi, celle qui nous met en route, celle qui nous libère de nos paralysies, celle que ton Fils Jésus-Christ, cette foi éternelle qu'il a eue lui-même dans sa vie et que nous voulons avoir avec lui aujourd'hui, lui qui fut toujours en chemin et qui l'est toujours avec nous. Amen. Réunissons-nous dans la communion fraternelle avec le premier chant du livret qui est inséré dans le psautier français. Et nous allons donc chanter. C'est David Cassan qui nous accompagne et le chœur est avec nous ce matin. Et c'est une joie d'accueillir les musiciens David Cassan, Alexandre Korovitch et le chœur de l'Oratoire du Louvre.
Sans fin la paix, on reprend le cantique.
Nous louons le Seigneur. Et nous le louons avec cette prière que j'ai choisie aujourd'hui parce que j'ai pensé aussi aux amoureux, à tous ceux qui demain fêteront la Saint-Valentin et veulent ensemble fêter cet amour qui les unit. Et c'est un poète, philosophe persan du XIVe siècle qui nous conduit dans cette contemplation de Dieu. Nul mortel n'a pu te voir, mille amoureux te désirent pourtant. Il n'est pas de rossignol qui ne sache que dans le bouton dort la rose. L'amour est là où la splendeur vient de ton visage. Sur les murs du monastère et sur le sol de la taverne, la même flamme inextinguible. Là où la sète enturbanée célèbre Allah, nuit et jour, où les cloches de l'église appellent à la prière, où se trouve la croix du Christ. Nul mortel n'a pu te voir, mille amoureux te désirent pourtant. Chantons notre louange avec le psaume 47, les strophes 1, 2 et 3, dans le psautier. Je vous invite à vous asseoir. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « J'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. » C'est celui qui crie dans le désert. Les enfants qui crient dans le désert avant le baptême de Jésus ? Comment s'appelle-t-il ? Allez, les plus grands, quand même. Le cousin de Jésus ? Ah, oui ? Jean-Baptiste, bien sûr, vous le saviez tous, évidemment, mais vous n'osiez pas le dire. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Voilà ce que nous demande ce prophète Jean-Baptiste. Il crie cela dans le désert, il criait déjà il y a très longtemps et sa parole résonne encore en nous aujourd'hui. Alors préparons les chemins du Seigneur dans nos vies. Nous chantons.
Thank you.
Et nous nous présentons devant Dieu avec tout ce qui nous égare, tout ce qui fait que nous avons du mal à aller suivre ces chemins du Seigneur. Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant moi, je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais pas vraiment moi-même et je crois sincèrement suivre ta volonté. Cela ne veut pas dire que je m'y conforme. Je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais et ne jamais rien faire à l'avenir sans ce désir. En agissant ainsi, je sais que tu me conduiras sur la bonne voie, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc toujours confiance, même quand j'aurai l'impression que je me suis perdue et que je marche à l'ombre de la mort. Je n'aurai nulle crainte alors, car tu es toujours avec moi, et jamais tu ne me laisseras seule dans le péril. Amen. Et nous entendons maintenant le chœur de l'oratoire qui va partager avec nous un extrait du Requiem de Mozart.
Thank you.
après ces larmes, je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce renouvelée sur nous. Dès que Jésus remonta de l'eau du Jourdain, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre vers lui comme une colombe. Et une voix survint des cieux et dit « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai mis ma joie. » Que cette parole résonne en nous tous. Chantons notre reconnaissance. Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons maintenant procéder à ce baptême qui a été attendu, reporté, où nous avons eu du mal à choisir la date parce que tout ça a été bien compliqué ces derniers mois et enfin, nous y sommes. Voilà, alors je vais maintenant m'adresser aux parents de cette jeune fille qui a demandé son baptême. Florence et Samuel, vous avez demandé le baptême pour votre enfant. Je vais vous demander avec les parrains et marraines et bien sûr la baptisée, peut-être sa sœur aussi, de me rejoindre ici pour que nous confessions ensemble la confession de foi que nous avons choisie et qui n'est autre que la confession de foi de l'Oratoire du Louvre. Venez. Voilà, je vais vous demander de m'entourer, voilà. Je vous invite à vous lever pour confesser votre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin de vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Seigneur, augmente en nous la foi. Et nous chantons ensemble. Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Samuel et Florence, votre enfant va être baptisé au nom du Père, qui lui donne le souffle de vie. Elle va être baptisée au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour elle et qui l'appelle à son service. Elle va être baptisée au nom de l'Esprit-Saint qui fera naître en elle, c'est notre souhait, la foi, l'espérance et l'amour. Il y a de l'eau ici, tu vois, et c'est de l'eau alors tout à fait ordinaire. Rien de magique là-dedans. Elle aurait pu servir à toutes sortes de choses. Peut-être que tu fais un peu de peinture, toi?
Oui.
Oui. Alors, quand on fait un peu de peinture, on a besoin d'eau, par exemple, selon la peinture qu'on fait. Et puis, elle aurait pu servir à faire pousser une plante, à laver les mains d'un enfant, à faire quoi d'autre encore? Peut-être à se laver, tout simplement. Oui. Mais avec la parole de Dieu, cette eau-là devient l'eau d'un sacrement, c'est-à-dire qu'elle devient signe, le signe de l'amour de Dieu pour toi, de sa bénédiction et de l'entrée pour toi sur un chemin que tu as choisi et qui t'a sans doute été inspiré par Dieu. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour nos enfants quand ils ne s'en rendent pas encore compte, mais aussi quand ils nous disent que dans leur vie, il y a quelque chose de plus grand qu'eux, auquel ils croient. En effet, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu nous l'a promis, nous sommes à lui, il nous connaît chacun par notre nom. Quel prénom avez-vous choisi pour votre fille ?
Ariane, Phyllis, Emma.
Pardon, redites-le bien fort.
Ariane, Phyllis, Emma.
Voilà. Trois beaux prénoms. Pour toi. Alors, je vais maintenant procéder à ton baptême, si tu es d'accord. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, on y va. Allez, on y va. Alors, peut-être que, Adélaïde, tu as envie d'être avec ta sœur à ce moment-là, parce que tu as déjà vécu le baptême, toi, il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Alors, on y va. Peut-être approchez-vous. Voilà. Ça va aller? Tu te penches là? Ariane, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Ariane, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que par lui, nous ayons la vie éternelle. C'est ce qui t'est promis à toi aussi. Alors maintenant, je vais proposer aux parents, aux parrains marraines, de prononcer quelques mots pour ton baptême, parce qu'ils ont des choses à te dire, je crois.
Pour toi, Ariane, notre deuxième fille, divine surprise après la tant attendue, voici un jour de joie. Une famille au grand complet, deux marraines, un parrain, une bonne fée même. Et désormais la communauté des protestants qui t'accueille en ce temple. Nous pensons t'offrir ici une culture, une vision du monde, une possibilité, pour que tu puisses évoquer chaque jour la liberté de penser, de croire, de douter, de rêver, d'être seul ou toujours accompagné, éclairé, pour que tu puisses aider et être aidé, construire, chercher, sortir des sentiers. Tu apportes ici tout ce que tu es déjà, courageuse, généreuse, intuitive, solaire. Tu apportes aussi tout ce que tu seras et nous t'accompagnerons pour que tu le découvres.
Voilà. Peut-être les parents m'arrêtent.
Ariane, aujourd'hui c'est l'occasion pour moi de te dire deux choses qui me paraissent importantes. La première, c'est quand tes parents, il y a quelques années, m'ont demandé si j'acceptais d'être ta marraine. Au-delà de la reconnaissance d'une amitié solide que nous avions tissée, c'était surtout une incroyable aventure humaine à laquelle ils me demandaient de prendre part. Et pas des moindres, t'accompagner, toi, Ariane, et pour très longtemps. Car c'est aussi ça l'exigence de l'engagement, t'accompagner certes, mais en s'inscrivant dans la durée. Sache, Ariane, que c'était un vrai cadeau pour moi qui croit tant en l'importance de la rencontre avec l'autre. Il n'est pas toujours facile de développer des relations profondes, alors cette demande est précieuse pour moi, car elle va nous permettre de nous rendre l'une à l'autre spéciales. Une vraie chance. Merci à tes parents de nous avoir aidés à construire ce lien depuis 9 ans déjà. La deuxième chose, Ariane, c'est que je souhaite vraiment accompagner ta capacité à questionner le monde dans ses dimensions humaines et spirituelles. N'oublie pas que tu pourras toujours te tourner vers moi, avec la simplicité qui témoigne de relations ancrées, frappées à la porte sans forcément avoir été invité pour des échanges, libres, ouverts, exigeants, drôles et tendres. Que nos différences ouvrent nos regards et consolident notre foi. Multiplions les rires, osons pleurer et prier ensemble, soyons toujours dans le vrai. Et une dernière chose, sois toujours fière de qui tu es et de ce en quoi tu crois.
Merci.
Très chère Ariane, nous sommes très heureux et très honorés d'avoir été choisis par tes parents comme parrain et marraine. Tu es une petite fille que nous commençons à connaître et la perspective de pouvoir t'accompagner dans les années à venir nous réjouit infiniment. Ariane, c'est un nom de baptême magnifique. Pour les protestants, j'espère ne pas me tromper, le baptême n'est pas un acte sacré. C'est celui qui affirme que tu as une place dans notre communauté. Tu décideras plus tard si tu souhaites prendre cette place. C'est ta liberté, une liberté qui est chez les protestants une valeur fondamentale.
Chère Ariane, nous sommes là et nous serons toujours là auprès de toi pour te dire combien nous t'aimons et avons confiance en toi.
Merci. Alors, Ariane, c'est le moment où on va exhorter tous ces gens qui sont là et qui te regardent et qui se demandent « Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, dans cette histoire-là » Hein ? Qu'est-ce que tu crois qu'ils peuvent faire pour toi ?
Je ne sais pas.
Tu ne sais pas ? Alors, je pense que déjà, on va te présenter à tout ce monde. Alors, je vais vous inviter à vous asseoir pour que Ariane puisse voir les personnes à sa hauteur. Voilà. Et que vous puissiez la voir dans les rangs. Alors voici Ariane, frères et sœurs. C'est votre sœur. Elle fait partie de votre famille spirituelle maintenant et vous êtes sa famille spirituelle. Vous êtes pour elle un lieu de prière. Vous êtes une communauté qui priera pour elle, qui la soutiendra, qui pourra toujours l'aider quand elle aura besoin de vous. Et elle sera pour vous sans doute une aide et une inspiration parce qu'elle participera à la vie de cette communauté. Si jamais elle décidait de se séparer de l'Église de Jésus-Christ, vous affirmerez qu'elle peut toujours, toujours, toujours y retrouver sa place. Ce sera ainsi pour elle le signe que l'amour de Dieu est inconditionnel et invincible. Voilà Ariane, voilà. Alors tu vois, tu connais un peu plus de visages maintenant. Et quand tu viendras ici, tu te diras « Mais oui, je les connais tous ces gens-là ». Alors, on va faire une petite prière parce que vraiment, il faut remercier Dieu pour ce qu'on vient de vivre, tu crois ? Hein ? Oui, on peut faire ça. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Ariane qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour elle et pour sa famille et nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Amen. Et maintenant, le chœur va t'offrir un autre cadeau. Tout à l'heure, c'était Mozart. Et maintenant, c'est la musique de Handel. Et tu vas entendre la première strophe du cantique « Seigneur, dirige et sanctifie » que le chœur a mis au point pour cette belle journée. Et puis, nous reprendrons ensemble le 204, la deuxième strophe après le chœur. Merci à tous. si vous voulez vivre. Voilà, c'est beau, hein? Oui, très très beau. Alors maintenant, je vous invite à vous asseoir et puis on va laisser sortir les enfants qui vont aller étudier un autre texte biblique, une parabole qu'on va leur expliquer ce matin. Bonne séance les enfants, et vous voyez, vous avez une nouvelle copine dans l'église, donc c'est quand même une très très bonne nouvelle ça, hein? Je vais te dire. Voilà, et merci à toutes les monitrices et moniteurs qui sont toujours là pour encadrer les séances, les préparer, donner de leur temps, de leur esprit, de leur humour, pour que les enfants apprennent à lire la Bible de la façon dont nous voulons leur apprendre, c'est-à-dire avec tout l'esprit critique et la distance qu'il faut avec ces textes pour mieux les comprendre. Et maintenant, c'est un texte biblique que nous allons partager. C'est Ariane et Adélaïde qui ont eu l'idée de ce texte, hein. Ariane m'a proposé particulièrement ce texte-là pour son baptême, et donc c'est elle qui va le lire avec sa sœur. On t'écoute.
Un jour...
Alors, il faut que tu colles le micro, voilà, comme ça.
Un jour, les habitants de Capharnaüm apprirent que Jésus venait dans leur ville, et la foule se rassembla dans la maison où il s'était arrêté. Et voilà que des gens arrivèrent, portant un paralysé couché sur un brancard. Mais il y avait tant de monde qu'ils ne pouvaient pas approcher. Alors, ils grimpèrent sur le toit, ils firent un trou, et ils descendirent le paralysé juste devant Jésus.
Jésus fut touché de leur confiance. Il dit aux paralysés, « Tes péchés sont pardonnés. » Il y avait dans la foule des maîtres en religion qui pensaient eux-mêmes, « Il n'a pas le droit de dire ça, c'est un blasphème. Dieu seul a le pouvoir de pardonner les péchés. » Jésus comprit leurs pensées. Il leur dit, « À votre avis, est-il plus facile de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien, « Lève-toi et marche. » Eh bien, je vais vous montrer que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. » Et, en se tournant vers le paralysé, il lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se leva, prit le brancard et sortit devant tout le monde.
Voilà, je vous invite à méditer ce beau texte biblique avec le cantique 250, les strophes 1 et 3. Et je vais vous inviter à regagner vos places pour qu'on partage ensemble la méditation. Je vous invite à vous asseoir et nous prions ensemble. Éternel, nous te remettons notre lecture, notre écoute. Cette relation que nous avons à ces témoignages anciens. Éclaire-la par ton Esprit Saint. Permet que nous soyons en relation avec ces témoins de la foi dans notre monde actuel. Et que cette parole qui résonne de loin soit une parole pour aujourd'hui, et particulièrement aujourd'hui pour Ariane. Amen. Qu'avons-nous entendu dans cette histoire ? Un récit de miracle ? Un débat sur le pardon du péché ? Une épiphanie du Fils de l'homme ? Ou alors un numéro d'équilibriste sur le toit d'une maison ? Difficile de savoir ce que l'Évangile veut nous dire dans cette histoire rocambolesque de brancardier montant l'air. Jésus est à la maison, dit le texte. Lui, le marcheur invétéré qui n'a nulle part où reposer sa tête, est quand même de temps en temps chez lui. Et c'est une particularité de l'évangile de Marc de le placer dans une maison qui est chez lui. C'est ce qu'on pourrait considérer comme son quartier général. Il y revient de temps en temps. Le problème, c'est que l'adresse en est connue.
Et très vite, on se presse à la porte pour le voir, entendre son enseignement et obtenir de lui une guérison. Les personnages du récit nous donnent l'impression qu'il y a plusieurs catégories de croyants dans ce décor familier de la maison de Jésus. Ceux qui sont devant la porte et qui veulent voir, les fans, qui recherchent celui dont tout le monde parle et qui sont là pour dire « j'y étais, je l'ai vu ». Il y a ceux qui veulent voir, entendre et bénéficier des talents du maître pour sortir de là grandi à son contact. On pourrait dire qu'ils veulent être des disciples. Il y a ceux qui veulent évaluer la validité des talents qu'on prête au maître, les experts. Il y a aussi ceux qui cherchent des repères, les errants, qui ont besoin qu'on les guide. Ils ne savent pas très bien ce qu'ils cherchent, mais ils ont besoin d'un guide. Et puis il y a ceux qui n'ont pas le loisir d'observer de loin, ni d'attendre qu'on les guide, mais pour qui approcher le maître est une urgence vitale. Ce sont les moribonds ou les risquent tout. Cette histoire est en fait une parabole. Pas une parabole de Jésus, mais une parabole de l'Église chrétienne primitive, qui choisit de raconter cette histoire-là dans un évangile. Cette parabole raconte ce que signifie croire que Jésus-Christ est le Seigneur. Évidemment, comme dans toutes les paraboles, cette histoire semble nous dire à bon entendeur « salut ». Et justement, il s'agit bien là de salut. Et tour à tour, chacun peut se retrouver à la place de celui qui est dehors, qui regarde, de celui qui est dedans et qui cherche, de celui qui est expert et qui juge. Selon sa posture, selon son histoire, selon son rapport à Dieu, selon son besoin de salut. Il peut être sur le brancard aussi, ou porter un autre. La maison de Capharnaüm, cette maison où Jésus est chez lui, c'est l'église. Pas forcément une église de pierre, pas forcément non plus une église institutionnelle, mais l'église de Jésus-Christ, visible et invisible. Celle dont on ne connaît pas les contours. Cet espace où les paroles et les actes se font au nom du Christ, au nom de la foi qu'on place en une résurrection toujours possible et une vie toujours renouvelée, en un salut pour l'homme. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas toujours complètement à ce salut, qu'on le questionne ou qu'on le désire éperdument, il est le cœur du message de l'Église de Jésus le Christ. En effet, cette foi ne va pas de soi. Elle est en devenir et l'on n'en est pas toujours au même point de la confiance que l'on met dans la révélation du salut que le Christ a apporté par sa vie, sa mort et sa résurrection. Comme dans cette histoire, il y a dans l'Église les fans qui sont sur le seuil et qui regardent encore Jésus de loin comme un modèle inaccessible, sans engager leur vie sur le chemin étrange qu'ils semblent tracer, chemin d'une exigence éthique énorme et d'une liberté tout aussi considérable. Cela l'admire, mais il se demande si ce message est bien tenable et si l'on n'y perdra pas au bout du compte, si l'on s'y engage, sa liberté, voire sa morale, tellement c'est transgressif. Dans ce que nous appelons l'Église, il y a ceux qui savent ou qui prétendent savoir aussi comment et pour qui doit s'opérer le salut de Dieu. Ce sont les experts, les professionnels de la foi. Ceux-là ont une idée très claire du plan de Dieu. À les entendre, d'ailleurs, on dirait parfois qu'ils ont dicté le plan à Dieu lui-même. Ils savent toujours ce qu'il ne faut pas faire, surtout, et apparaissent comme les gardes-frontières qui garantissent que chaque chose reste à sa place pour que rien ne change et que surtout la conversion soit impossible. La foi n'est pas vraiment leur affaire. Leur affaire à eux, c'est la religion dans ce qu'elle produit d'immobilisme. Et puis il y a les errants, ceux qui entrent et s'approchent très près, et qui entrent et entendent l'enseignement du Maître et se disent qu'ils pourront l'appliquer comme un règlement de leur fort intérieur. Le christianisme devient alors une règle qui pose des jalons sur la route de leur existence et propose des valeurs à adopter, une boussole. Enfin, n'y tenant plus, il y a les acrobates, les risque-tout de la foi, qui transgressent les règles, la tradition et les valeurs. Parce qu'au point où ils en sont, ils ont bien compris que l'affaire se jouait ailleurs que dans une conformité à un modèle. Cela passe par le toit quand on leur interdit l'accès par la porte. Ils n'y tiennent plus de voir tant de misère sans salut. Ils n'acceptent pas que le mal soit une fatalité. Ils ne veulent pas savoir ce qu'il adviendra d'eux après leur mort au jour du jugement dernier. Ceux-là veulent la vie ici et maintenant. Eux n'admirent pas Jésus comme une star. Ils ne veulent pas vérifier s'il est conforme à ce qu'il devrait être. Ils ne lui demandent pas de les guider sur leur propre chemin. Ils demandent rien moins que la vie. Et ils ne la demandent pas pour eux-mêmes, ils sont déjà ressuscités. Mais pour ceux qui sont paralysés autour d'eux, ceux-là sont l'Église du Christ. Avant même de l'avoir rencontré, ils sont convaincus que la résurrection est possible et qu'il faut qu'une parole de libération relève leur ami alité sur son grabat. Ils sont les porteurs du Christ, les christophores de notre monde. Ils ne sont pas forcément dans l'Église visible, mais dans cette Église invisible que Dieu seul connaît. Cette Église invisible est constituée de tous les humains qui travaillent au bien, à la justice, à la paix, des croyants mais aussi des athées vertueux, des agnostiques de bonne volonté, des artisans d'amour, qui se posent peut-être rarement la question de Dieu, mais qui se posent à coup sûr la question de l'homme. Grâce à tous ceux qui veulent vraiment sauver l'humanité du mal qui la défigure, la lumière du ciel entre dans la maison de Jésus. On y voit enfin clair, et l'on y reconnaît ceux qui veulent vraiment le salut des hommes. C'est en voyant leur foi à déplacer les montagnes que Jésus dit aux paralysés « Tes péchés sont pardonnés ». Car dans cette parabole, le message de Jésus a besoin de cette foi de ses christophores pour que son message devienne une parole de vie. Il a besoin de ses transgresseurs pour que les mots deviennent des témoignages vivants, pour que l'Église devienne le corps du Christ. Un corps qui se sait mort et paralysé, mais sauvé par l'amour de Dieu. Alors qu'est-ce qui est plus facile de dire? Qu'est-ce qui est plus facile en définitive? D'être l'Église qui dit « Tes péchés sont pardonnés » ou bien d'être l'Église qui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». En vérité, il vaut mieux s'abstenir de dire qui est pardonné et qui ne l'est pas si ce pardon ne remet personne en route. Alors Jésus fait ce que Dieu fait. Certes pas à sa place, non, mais en son nom. Il ordonne aux paralytiques de se lever et de marcher comme un homme libre, que rien ne peut retenir là où il ne veut plus être. La paralysie a changé de camp. Les fans ne savent plus qui ils doivent admirer, Jésus, les acrobates ou le paralytique qui se lève. Les experts qui criaient au blasphème voient le royaume de Dieu accompli sous leurs yeux. À quoi se fier grand Dieu si la foi n'a plus de contenu? Si tout est possible à l'homme qui croit, que devient la crainte de Dieu et la crainte de la religion? Parce que quatre porteurs intrépides ont décrété qu'il était possible que le monde change. Oh, pas le monde entier, non, juste le monde de leur ami. Le monde de celui qu'ils connaissaient et qu'ils ont assez vu sur son grabat. Parce que ces quatre-là ont cru que c'était possible, alors c'est le système tout entier qui a changé. Jésus n'est ni une vedette, ni un blasphémateur. Il est celui qui vit selon la foi que Dieu a placée en lui. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis ma joie. Cette même parole que nous pouvons tous entendre. Ces paroles, ce sont celles que d'autres avant nous ont entendues dans leur cœur un dimanche de février 43. J'en parlais en entrant dans ce culte. C'était le 12, et le pasteur Vergara prêchait à l'oratoire du Louvre, à l'endroit même où je me trouve, et il disait « Priez sans se lasser et ne se relâchez point, c'est dire à Dieu « Ô Père, tout est obscurité autour de moi. Je te cherche en vain à ma droite et à ma gauche, et je ne te trouve pas. Mais je me mépriserais moi-même si j'acceptais ce qui est et cessais de crier vers toi. Je sais que tu me répondras et que tu feras voir la justice de ma cause quand le moment sera venu. Là est la prière qui triomphe de toutes les oppositions. Là est ce royaume dont parle le Christ et dont il nous dit que ce sont les violents seuls qui le ravissent. Seul celui qui croit invinciblement à la justice et à l'amour ne peut rien perdre de son audace, de son impétuosité, de sa vivante animation. Il n'est jamais terrassé par la vie. Ceux et celles qui l'ont entendu ce jour-là ont organisé le sauvetage de 63 enfants juifs en les exfiltrant des foyers où ils logeaient pour les mettre en lieu sûr. Avec l'aide de femmes chrétiennes, juives et sans doute aussi des femmes d'autres convictions, convaincues que si le sort tragique de ces enfants semblait inéluctable dans le contexte cruel dans lequel ils étaient, la foi de quelques intrépides pourrait changer la fatalité en chance, en salut, en grâce, quitte à y perdre la vie. Ce jour-là aussi, le ciel est entré dans la maison du Christ, en rendant hommage à Marcel Guilmaud, autre intrépide de la foi. Paul Vergara a eu cette analyse des années plus tard, en 61, et il écrit « Il est des moments où des éditions atténuées de l'Évangile ne sauraient répondre aux besoins immédiats de ceux qui sont tombés entre les mains des brigands. Jouer de la flûte quand le clairon convie au combat n'est rien d'autre qu'une désertion. Nous avons répondu à l'appel du clairon et nous sommes entrés dans la lutte avec un groupe de femmes héroïques. Il n'y a pas d'édition atténuée de l'Évangile dans la maison de Jésus le Christ, parce que c'est une question de vie ou de mort, une question de salut pour nos vies. Les nôtres et celles de ceux que nous voyons défigurés par le mal et qui ne peuvent plus croire tout seuls qu'ils peuvent se lever. Ça peut être nous demain, c'était peut-être nous hier. Ils voudraient bien quelqu'un qui les aide et qui leur dise « Prends ton grabat et marche librement ». Nous sommes l'Église que Dieu appelle à son service, avec vous toutes et tous, avec les croyants, avec les agnostiques, avec les athées, parce que nous croyons qu'on peut passer par le ciel quand la porte est fermée, et parce que nous croyons qu'il est juste d'agir ainsi. En préparant son baptême, Ariane m'a dit avec sincérité « Je ne sais pas si je crois en Dieu parce que j'ai tendance à croire seulement ce que je vois. » Quelle honnêteté! Pour Ariane, nous devons rendre visible l'amour de Dieu pour l'homme et nous devons le faire ensemble. Alors elle saura en quoi elle peut croire. Amen. Je vous invite à prendre le psaume 62, la version B, « En toi, mon Dieu, toi seulement ». Voilà, je vous invite à vous asseoir, nous allons partager quelques annonces. Voilà, et c'est Aurore, notre présidente du conseil presbytéral, qui partage les annonces avec nous.
J'ai déjà un scout auprès de moi.
Eh oui.
Tu t'appelles comment ? Benjamin. Tu es partie des cobras. Voilà. Oh là là. Bonjour à tous. Vraiment, au nom du Conseil presbytéral, merci infiniment d'être venus aussi nombreux ouvrir grand vos cœurs à toi, Ariane. Ariane a 8 ans et elle fait partie aussi des scouts de l'oratoire.
Eh oui.
C'est vrai ? Tu le connais ?
Pas encore, ça viendra.
Merci au cœur. Vous les avez écoutés, Requiem de Mozart, tout à l'heure. C'est ce qu'ils sont en train de répéter pour leur concert du 18 juin. Donc prenez date d'ores et déjà pour le 18 juin. Ça va bientôt être les vacances scolaires. Le cœur est donc venu aujourd'hui pour t'accueillir, Ariane, et parce qu'on a aussi changé le planning, parce qu'on s'est rendu compte qu'en pleine vacances scolaires, ils étaient aussi moins nombreux. Donc ils sont là aujourd'hui, ils ne seront donc pas là la semaine prochaine, ils ne seront pas là non plus le 6 mars comme nous l'avions prévu, mais le 13 mars, c'est-à-dire quand tout le monde sera bien rentré de vacances. Agnès va aussi partir en vacances à la fin de la semaine, donc c'est encore toi qui prêches dimanche.
Eh oui.
Deux fois de suite, donc on vous le dit. Mais nos plannings, ce n'est pas une fois sur deux, on n'est pas dans un automatisme,
ah,
nous
non,
sommes
non,
dans un travail d'équipe. Nous décidons du planning en fonction de celui du cœur, en fonction de celui des cérémonies, beaucoup, parce qu'on a très à cœur que chaque pasteur puisse intervenir le jour de la cérémonie de baptême. Et puis dans la semaine, on a aussi malheureusement des cultes d'action de grâce, donc nous essayons de jongler sur notre planning. C'est donc important que le vendredi, vous receviez notre email, qui est ce qu'on appelle la newsletter ou les nouvelles de l'oratoire. Donc vraiment, inscrivez-vous aux nouvelles de l'oratoire parce que vous avez les informations de dernière minute.
Et donc, compris, le dimanche prochain, ce sera un baptême.
Dimanche prochain, tu auras encore un baptême. Et puis, du coup, si vous lisez, par exemple, les nouvelles de l'oratoire, vous saviez qu'il fallait garder un peu de monnaie pour la sortie parce qu'on va avoir une vente de gâteaux. Elle va servir à quoi, cette vente de gâteaux ?
À financer nos projets tout au long de l'année et pour le camp scout qui aura lieu en juillet.
Pour les cobras, parce qu'ils ne jouent que pour les cobras. Hein.
Le partage, ça va bien, mais pas trop quand même.
Voilà. Également, tout à l'heure, à 13h, puisque vous êtes très nombreux, vous allez tous aller dans un café du coin de 12h à 13h, et vous revenez à 13h, partager des paroles d'amour avec Agnès, qui est actuellement à l'éducation biblique, avec les enfants, mais qui sera revenue, et Béatrice, les paroles d'amour, le partage sera aujourd'hui sur le thème de l'amitié. Donc c'est un thème riche dans la Bible et riche dans nos cœurs également. Donc vraiment, venez nombreux de 13h à 15h à la maison presbytérale. Partagez, si vous n'êtes jamais venu, ne soyez pas timide, surtout sur un thème comme l'amitié. C'est le moyen aussi de se faire des amis cet après-midi.
Exactement.
Et des nouvelles connaissances. C'est le temps de l'offrande. Nous ne vivons que de dons. Alors vous savez que nous mettons aussi à disposition ce temple pour des concerts et autres, pour essayer de participer aux frais, mais notre propriétaire est la ville de Paris. Donc quand on met à disposition, c'est pour travailler sur les vitraux, sur le bâtiment lui-même. Mais l'église elle-même, notre activité, toutes ces, j'allais dire, concerts spirituels, cultes, baptêmes, cérémonies, peuvent être possibles, et l'éducation biblique, et même loger les scouts, que grâce à vos dons et à votre offrande. Nous avons pour les nouveaux un panier digital, c'est-à-dire que nous prenons aussi la carte bleue. Merci infiniment et bon dimanche.
Thank you.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions pour Ariane, pour que ce baptême lui donne l'assurance de ton amour indéfectible pour elle. Nous te prions pour la famille d'Ariane, que ce baptême, comme une fête au milieu du quotidien, illumine leur vie. Seigneur, nous te prions pour tous les enfants qui ont déjà la conscience d'appartenir à une communauté de croyants. Aide-les à comprendre dès leur plus jeune âge la communion fraternelle comme une chance de s'ouvrir aux autres et non comme une carte d'identité qui les séparerait des autres. Que la tradition reçue par chacun devienne le trésor avec lequel l'amitié puisse se construire dans le respect et l'accueil de l'autre. Seigneur, nous te prions pour les paralysies qui marquent l'humanité, les paralysies du corps mais aussi des esprits. Permets que la liberté de ton Fils Jésus-Christ nous enseigne à croire qu'il est toujours possible de changer, de bouger. Donne-nous le courage de porter ce qui était voué à rester inerte. Donne-nous la foi nécessaire pour changer nos codes quand ils sclérosent la vie de tes enfants. Donne-nous ton esprit pour que Jésus devienne en nous le Christ et qu'il nous sauve de tout immobilisme. Seigneur, nous te prions pour la paix en Europe. Au moment où elle est soumise à l'intimidation, permets que les pays qui la composent se souviennent que c'est ensemble que nous pourrons porter un projet durable de paix. Condition nécessaire à une vie meilleure pour tous ses habitants. Ensemble, convaincus que tu nous entends, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, Ariane, c'était le temps d'une halte, le temps d'une fête autour d'un baptême. C'était le temps où nous avons pu vivre ensemble la parole de Dieu, visible dans cette église. Allez avec l'église invisible, allez et trouvez-la partout où elle se trouve. Allez retrouver tous ceux qui veulent que l'humanité vive de la parole de Dieu, de cette parole qui libère. Recevons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur nous bénit et il nous dit « Tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis ma joie ».
Tout mon cœur soit